VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mardi 29 juin 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonjour à tous. À la une de nos informations, deux djihadistes présumés aux mains des autorités burkinabées. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part au massacre de Solane qui a fait au moins 132 morts. En Éthiopie, les autorités du Tigré promettent d'intensifier leur combat, ignorant le cessez-le-feu unilatéral d'Addis Abeba. En Afrique du Sud, Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison, l'ex-président est jugé coupable d'outrage à la justice. Israël inaugure son ambassade aux Émirats Arabes Unis, une première dans le Golfe pour l'État hébreu. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Burkina Faso, deux djihadistes présumés, dont le chef d'une base terroriste, accusé d'avoir joué un rôle clé dans le massacre du village de Solane, dans le nord-est du pays, ont été mis en examen pour terrorisme. Jacques Aristide.
Les deux individus, Manou Tidjani, alias Ali, et Boba Dikouré, sont âgés de 28 ans et de nationalité burkinabé, d'après un communiqué du procureur du Burkina, Émile Zerbo. Une information judiciaire a été ouverte contre eux pour association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, vol, détention illégale d'armes à feu et de munitions, dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers, toute infraction en lien avec le terrorisme. Manou Tidjani est le chef d'une base terroriste située dans une forêt de Boundoré dans le nord, tandis que Boba Dikouré est un simple combattant selon le communiqué. Dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés, dont des jeunes âgés de 12 à 14 ans selon les autorités, ont attaqué le village de Solane, tuant au moins 132 personnes. Le Ballet Citoyen, une association de la société civile, a déposé une plainte contre le gouvernement pour non-assistance à des personnes en danger. Plusieurs partis d'opposition ont également appelé à manifester la semaine prochaine pour dénoncer ce qu'ils appellent l'inaction des autorités face aux attaques récurrentes contre les populations civiles.
L'impunité généralisée des violations des droits humains au Mali constitue un risque grave pour la protection des civils, a prévenu aujourd'hui le bureau de la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. J'exhorte à nouveau les autorités maliennes à briser le cycle de l'impunité et à mener des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme, y compris celles commises par l'armée. L'obligation de rendre des comptes doit prévaloir pour garantir la paix, a souligné Michel Bachelet dans un communiqué. Nnamdi Kanu, le dirigeant séparatiste pro-Biafra, une région dans le sud-est du Nigeria, a été arrêté et ramené au pays pour être jugé pour terrorisme après une cavale de plusieurs années, a annoncé aujourd'hui à Abuja le procureur général. Le chef du mouvement indépendantiste pour les peuples du Biafra a été arrêté le 27 juin en collaboration avec des services de sécurité dont la nationalité n'a pas été dévoilée, a déclaré Aboubakar Malami, ministre de la Justice et procureur du Nigeria, lors d'une conférence de presse. Nnamdi Kanu sera jugé pour 11 chefs d'accusation, dont le terrorisme, a souligné M. Malami. En RDC, le député provincial d'opposition Jean Bosco Assamba Angeka, détenu depuis dimanche par la justice militaire de Bounia, a été remis en liberté. Soupçonné d'outrage au chef de l'État pour des propos tenus, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il avait été transféré lundi à la prison de Bounia après avoir été auditionné par le procureur militaire. En Éthiopie, les autorités dissidentes de la région du Tigré ont assuré que leur lutte allait s'intensifier malgré un cessez-le-feu décrété par le gouvernement éthiopien hier soir après l'entrée à Mekele de forces loyales aux anciennes autorités régionales. Nathalie Barge.
Les forces de défense du Tigré sont entrées hier dans la capitale régionale où l'armée et l'administration avaient fui. Alors que les habitants célébraient la nouvelle dans les rues, le gouvernement d'Abiy Ahmed a annoncé un cessez-le-feu. Dans la nuit, l'ancien gouvernement du Tigré a salué les avancées des TDF et déclaré que Mekele était entièrement sous son contrôle. Le gouvernement et l'armée du Tigré vont accomplir toutes les tâches nécessaires pour assurer la survie et la sécurité de notre peuple, indique-t-il dans un communiqué. Selon le Centre de réflexion internationale Crisis Group, les TDF contrôlent désormais la majeure partie de la région, y compris les grandes villes. Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont fui la ville de Chaï à 140 km au nord-ouest de Mekele. Cette ville accueille des centaines de milliers de déplacés tigréens.
La Somalie a fixé ce mardi au 10 octobre prochain l'élection de son président, un scrutin dont le report avait provoqué ces derniers mois l'une des pires crises politiques récentes dans cet état de la Corne de l'Afrique. Selon un calendrier publié par le bureau du Premier ministre, à l'issue de 2 jours de négociations entre les dirigeants politiques, l'élection présidentielle viendra clôturer un processus électoral qui va démarrer le 25 juillet avec l'élection du Sénat. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Ses avocats avaient multiplié les recours pour éviter de le faire témoigner dans le cadre d'enquêtes sur la corruption. Claire Morin-Gibourg.
La Cour constitutionnelle n'a pas d'autre choix que de conclure que M. Zuma est coupable d'outrage à la justice, a déclaré la juge Sissi Kampepe, ajoutant que l'état de droit et l'administration de la justice doivent prévaloir. Jacob Zuma, 79 ans, qui avait affirmé n'avoir aucune crainte d'être arrêté, a désormais 5 jours pour se rendre. Dès la fin de son mandat, une commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État a été mise en place et M. Zuma a multiplié les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer. Fin février, l'ancien président a ignoré une décision de la justice, l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. Jacob Zuma n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission anticorruption en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé et non comme un témoin. Le président Cyril Ramaphosa, qui lui a succédé, a lui-même été appelé à témoigner devant cette commission.
Le royaume d'Eswatini a déployé l'armée dans les grandes villes pour réprimer les manifestations pro-démocratie qui ont brûlé des pneus et caillassé des voitures dans les deux principales villes, Manzini et Mbabane. Plusieurs sources ont également fait état de pillages et d'incendies à Matsafa, une zone commerciale à l'ouest de Manzini. Plus de 250 manifestants ont été blessés par balles, a dit Wandile Dlodou, le secrétaire général du Front démocratique uni du Swaziland. Le premier ministre Temba Masuku a lancé un appel au calme et a promis que le mouvement informerait la nation des interventions sur la situation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid a inauguré aux Émirats arabes unis la première ambassade d'Israël dans le Golfe. C'est lors d'une visite officielle inédite pour un ministre de l'État hébreu. Le point avec John Lindon.
En train de couper le ruban d'inauguration de l'ambassade d'Israël à Abu Dhabi avec la ministre émiratie de la Culture, Noura Al-Kabi, a écrit sur Twitter le ministre israélien. Ce que nous faisons ici aujourd'hui n'est pas la fin du trajet, c'est le début, a-t-il ajouté, en appelant tous les pays arabes de la région à reconnaître Israël. Il a aussi insisté sur la nécessité de connecter et de faire prospérer leurs économies. Arrivé dans la matinée dans la capitale Abu Dhabi, M. Lapid doit aussi s'entretenir avec des hauts responsables émiratis et se rendre à Dubaï pour l'ouverture officielle du consulat d'Israël. Bahreïn, une autre monarchie du Golfe, ainsi que le Maroc et le Soudan ont également signé ces derniers mois des accords de normalisation avec Israël. Les Palestiniens ont dénoncé ces accords et les ont qualifiés de trahison.
Des milliers de miliciens irakiens membres du Hashd al-Shaabi ont participé aujourd'hui à Bagdad, en Irak, à des funérailles symboliques pour les personnes tuées lors d'un raid américain contre cette coalition militaire pro-Iran. Dans la nuit de dimanche à lundi, les États-Unis ont mené des frappes contre ces milices en réponse aux attaques ces derniers mois contre leurs intérêts en Irak, imputés aux factions fidèles à Téhéran. Le multilatéralisme sera crucial pour affronter la crise provoquée par la pandémie du COVID-19, a estimé aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors d'une réunion du G20 à Matera dans le sud de l'Italie. Le ministre italien Luigi Di Maio, dont le pays préside actuellement le G20, s'est lui aussi exprimé en faveur d'un multilatéralisme efficace sous l'égide de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu aujourd'hui sa première réunion publique formelle sur la cybersécurité, Washington réclamant un respect du cadre déjà approuvé aux Nations Unies, tandis que Moscou plaide en faveur d'un traité. Les Occidentaux soupçonnent la Russie, soutenue par la Chine, de vouloir un traité afin de réduire sur Internet la liberté d'expression et donc les oppositions. Voilà pour le journal. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Présent la minute écho avec Nathalie Barge.
Selon un rapport de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, près de la moitié des 206 aires protégées d'Afrique centrale est menacée par l'exploitation pétrolière et gazière. Le pourcentage monte à 60% si on inclut l'industrie minière et des permis sont accordés dans 27% des aires protégées. Les experts proposent de renforcer la gestion des impacts des industries extractives en les bannissant dans les zones riches en biodiversité et en les permettant dans d'autres zones selon des conditions strictes. La Chine a annoncé un moratoire temporaire sur les prises de calamars effectuées par ses bateaux dans les océans Atlantique et Pacifique. Le pays représente 70% des prises mondiales de calamars et ses bateaux s'aventurent jusqu'au large de l'Afrique de l'Ouest et de l'Amérique latine. Sa flotte de pêche en eau lointaine compte plus de 2600 navires et le secteur emploie plus de 14 millions de personnes. Selon une enquête du cabinet d'études Sensor Tower, les dépenses mondiales effectuées par les utilisateurs d'applications mobiles s'élèvent à près de 65 milliards de dollars au premier semestre 2021. Les chiffres indiquent que plus de 41 milliards ont été dépensés sur l'App Store d'Apple et plus de 23 milliards sur Google Play entre janvier et juin. Il s'agit d'une hausse de 25% par rapport à la même période l'an dernier.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Un championnat fini sur les terrains, mais qui se poursuit devant les instances. En République démocratique du Congo, c'est sur fond de contestation que s'est clôturée la saison footballistique 2020-2021. Le dernier match ayant opposé V-Club à Lubumbashi Sport s'est soldé par un nul blanc. De Kinshasa, la correspondance de Valdo Simo Yamba.
Un dernier match qui n'a pas fait les affaires du V-Club puisqu'il est tenu en échec par Lubumbashi Sport, alors que le Dauphin Noir de Kinshasa s'est levé de l'emporter pour terminer en deuxième position au classement et jouer ainsi la Ligue des champions de la CAF saison 2021-2022. Un nul blanc synonyme de contre-performance qui a sorti l'entraîneur Ibengué de son retranchement au sujet de 9 points leur retranchés dans un litige administratif qui les oppose au cercle sportif Don Bosco par rapport à l'alignement du joueur Matutala pour double affiliation.
L'affaire n'est pas fini. Je ne vois pas comment on peut ne pas nous rendre nos 9 points. Tout simplement parce que moi, je suis le premier protagoniste. Je ne suis pas un tricheur, pas du tout. Et l'éthique du football doit l'emporter. On ne doit pas faire emporter autre chose que le football.
Allez-y comprendre qu'avec 9 points de moins, V-Club est 3e, 65 points, condamné à jouer la Coupe de la Confédération. Avec 66 points, Maniema Union hérite de la 2e place qualificative à la Ligue des champions de la CAF et en pole position avec 69 points. Le tout-puissant Mazembe. Une saison qui se termine sur fond des contestations. V-Club espère toujours avoir gain de cause au niveau de la FECOFA. Kinshasa, Valdo Simo Yamba, VOA Afrique.
Des nouvelles de l'Euro, choc à Wembley ce soir en 8e de finale. Angleterre-Allemagne est le point d'orgue de la dernière journée. Juste après, la Suède fait face à l'Ukraine pour le dernier ticket pour les quarts. Playoff NBA, les Los Angeles Clippers ont repoussé le spectre de l'élimination en finale de conférence Ouest. Ils se sont imposés 116-102 lors du match numéro 5 face au Phoenix Suns, bénéficiant d'un Paul George des grands soirs. Bagassi Koura.
Oui, Kawhi Leonard toujours absent pour les Clippers. Paul George était tout désigné pour endosser de nouveau le rôle de fer de lance de l'attaque des Angelinos. Contrat parfaitement rempli pour l'ancien des Pacers avec un total de 41 points pour 13 rebonds et 6 passes. Mais c'est d'abord derrière Marcus Morris en feu à 6 tirs réussis sur 6 pour débuter la partie que les Clippers réussissent à distancer les Suns. À la fin du premier quart-temps, Los Angeles affiche ainsi un taux réussi au tir de 65% quand Phoenix connaît une traversée du désert et ne rentre que 41% de ses tirs. Les Clippers ne sont désormais menés que 3 matchs à 2 et auront la chance de revenir au niveau des Suns demain. Le match numéro 6, donc, tout aussi décisif, se disputera sur le parquet des Clippers. Pour Los Angeles, il faudra absolument s'imposer pour forcer un match numéro 7 pour Phoenix, ce sera une nouvelle occasion de finir le travail et d'accéder à sa première finale NBA depuis 1993.
Merci, Bakassi.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'opposition maintient sa marche pour dénoncer la situation sécuritaire dans le pays après le massacre de Solane qui avait fait au moins 132 morts. Le président Roch Kabore avait appelé dimanche à sursoir aux manifestations. Le Balai Citoyen, une organisation de la société civile, a porté plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
L'opposition signe et persiste. Elle va marcher le week-end prochain pour dire non aux attentats terroristes. Elle dit ne pas être rassurée par le discours de Roch Kabore le dimanche dernier. Eddy Kombéou est le chef de file de l'opposition.
Nous avons relu et écouté le discours du président Kabore, nous ne voyons nulle part une main tendue. Nous avons des promesses vagues, creuses, et ce ne sont pas des promesses que nous attendons. Ça fait déjà 6 ans que le Burkina Faso vit l'insécurité. Les peuples meurent sans savoir pourquoi on les assassine sauvagement. Le cadre de concertation du chef de file de position s'est réuni lundi et à l'unanimité a décidé de poursuivre le combat à travers la marche silencieuse et la marche de protestation, la marche pacifique. Nous allons marcher jusqu'à ce que le gouvernement prenne conscience que les mesures doivent venir assez rapidement et que les attaques barbares doivent s'arrêter immédiatement.
C'est la marche de notre survie, c'est la marche de notre réveil, c'est la marche de notre quête de liberté et de notre quête de paix.
Lionel Bilgo, analyste politique sur Radio Omega, une radio locale ce mardi, affirme que la marche est bien symbolique et va au-delà de celle organisée par l'opposition.
Personne ne marche pour que les terroristes cessent leurs actions. Les marches sont faites pour réveiller l'exécutif, interroger l'exécutif et exiger de l'exécutif des actions et des changements dans la stratégie actuelle. Quand vous avez dans un pays un premier ministre qui va dire devant l'Assemblée nationale qu'il n'a pas de stratégie pour lutter contre le drame terroriste, ça veut dire vraiment que nous sommes tombés des nues, que nous sommes vraiment dans la boue. Je trouve que c'est dommage que ce soit une marche de l'opposition pour un problème qui concerne l'ensemble des Burkinabés. J'aimerais bien que l'on ne déplace pas la question.
Ce mardi, le Balai Citoyen, un mouvement de la société civile, même si elle se démarque de la marche de l'opposition, a déposé une plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger au regard des nombreux attentats terroristes. Smoke est l'un des porte-parole.
L'agenda gouvernemental est guidé par des préoccupations politiciennes et partisanes aux antipodes de l'urgence sécuritaire et au mépris de la souffrance du peuple. En effet, la priorité du gouvernement est de déployer son agenda de réconciliation nationale pour gaspiller les maigres ressources financières et promouvoir l'impunité. Il n'échappe à personne que cet agenda aventurier n'apporterait ni l'arrêt des attaques avec son cortège de morts, ni l'occupation du territoire, encore moins le retour des déplacés dans leur localité, car les causes sous-jacentes des attaques terroristes demeureront.
Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir et ses alliés, dans une déclaration, je cite, dénonce fermement et met en garde contre les manœuvres politiciennes qui sous-tendent certaines manifestations dites spontanées, des agitations pour le moins incongrues et inopportunes, qui, au regard de la situation que vit la patrie, ne sauraient dans aucun cas constituer une quelconque réponse au terrorisme. Bien au contraire. Les visées et les velléités putschistes des instigateurs de pareils mouvements sont évidentes et manifestes. Fin de citation. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Tchad, les magistrats ont entamé une grève illimitée à l'appel conjoint du syndicat des magistrats du Tchad et du syndicat autonome des magistrats du Tchad. La grève survient après un arrêt de travail de 3 jours suite à l'assassinat mercredi dernier de Ahmad Mahamat Amba, procureur du tribunal d'Oumadjé, dans l'exercice de ses fonctions. Jacques Aristide, adjoint à N'Djamena, Djonga Rafi, secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad.
Je voudrais tout d'abord rectifier une chose. La cessation concertée du travail pendant 3 jours était une période de deuil pour nous. Et c'est maintenant que nous entrons donc réellement en grève. Illimité pourquoi ? Parce que nous estimons que par le passé, nous avions eu à décréter donc des grèves de façon intermittente, de sorte que nous appelons à une grève d'une semaine pour donner du temps de répit au gouvernement afin qu'il nous appelle. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc là, nous sommes vraiment lassés. Donc là, de cette attitude-là, nous avons estimé qu'il fallait simplement rester à la maison et envisager peut-être d'autres perspectives.
Hormis cette question de sécurité, quelles sont vos autres revendications ?
Nous avons également d'autres revendications. Toutes ces revendications sont en lien avec les premières en ce qui concerne l'insécurité. C'est vrai, nous avons également les ingérences, le manque de respect, par exemple, de nos auxiliaires qui parfois brutalisent les magistrats. C'est pourquoi nous avions, en ce qui concerne donc ces revendications, la notée des faits récents. Un de nos collègues a été outragé par les éléments de protection du directeur général de la police nationale. Et malgré qu'il ait donc présenté sa carte professionnelle de magistrat, ils l'ont placé en violon. C'est une histoire qui n'existe pas à travers le monde, sauf au Tchad. Et de l'autre côté, nous avions également été frustrés par le comportement de la ministre de l'Aménagement du Territoire et des Affaires Foncières qui, pour avoir donc entendu que les magistrats ont opéré une descente sur le lieu dans les services de cadastre au niveau de ces services, elle a systématiquement donc outragé ces magistrats-là en confisquant un dossier de la procédure. Donc tous ces faits-là doivent interpeller les consciences. L'indépendance de la magistrature est mise en jeu au Tchad et nous attendons que les réponses concrètes nous soient données.
Quelle est la réaction du gouvernement par rapport à vos demandes ?
Et en ce qui concerne la réaction du gouvernement, je crois que c'est une situation pratiquement où nous avons envoyé un signal. Mais nous attendons le retour. Mais nous notons quasiment, pratiquement le même comportement. Nos partenaires affichent pratiquement un mutisme qui frise même un phénomène de manque de considération pratiquement. C'est pourquoi jusqu'à là, nous n'avons noté aucune réaction du gouvernement. Ce que nous déplorons d'ailleurs.
Djonga Arafi, secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad.
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le conflit dans la région éthiopienne du Tigré entre dans une nouvelle phase. Les rebelles loyaux au Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, ont repris le contrôle de la capitale régionale Mekele après 8 mois de combat. Addis Abeba a décrété un cessez-le-feu unilatéral et les autorités administratives ont fui la ville. Pour une analyse, Abdourahman Dia, joint à Arcachon, dans le sud-ouest de la France, Dr Patrick Ferras, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Je pense qu'il faut continuer quand même à être un peu prudent, car il y a toujours une guerre de communication entre le gouvernement fédéral et puis les Tigréens. Mais on voit quand même que les Tigréens parlent beaucoup plus aujourd'hui, donc ils ont plus accès à la parole et à la communication. Donc je pense que ce qui se passe est réel et que nous assistons vraiment à un tournant. Un tournant parce que les Tigréens ont repris leur capitale, je précise bien leur capitale Mekele, en moins de 7 mois, tout en luttant contre l'armée éthiopienne, l'armée érythréenne et l'Ini Samara. Alors le gouvernement fédéral vient de décréter d'une manière unilatérale un cessez-le-feu inconditionnel, comme il l'appelle, mais en même temps l'armée a priori est en déroute, fuit, et le gouvernement intérimaire a quitté la capitale Mekele et même la région du Tigray.
Alors qu'est-ce qui justement pourrait expliquer ce renversement des rapports de force sur le terrain ? Et comme vous le disiez tantôt, les forces fédérales éthiopiennes étaient appuyées par l'armée de la région d'Amara et les troupes érythréennes.
Tout simplement parce que les Tigréens sont attachés à leur terre et se battent. Quant à l'armée éthiopienne qui comporte surtout des éléments Oromo et Amara aujourd'hui, puisque les Tigréens ne font plus partie de l'armée éthiopienne, ils ne voyaient peut-être pas forcément l'intérêt d'aller se battre là-haut. Il y a sûrement eu des problèmes de commandement, de management, d'organisation, et on voit bien, si vous voulez, que s'il n'y a jamais eu d'image, si l'on peut dire, de vidéo sur les combats, c'est que il y avait beaucoup de pertes de chacun des deux côtés. Et en même temps, si vous voulez, l'armée éthiopienne s'est considérée comme étant occupée avec la région Tigray, en occupant simplement les villes et les axes routiers. C'est ce qui fait que l'aide humanitaire ne pouvait pas être accédée dans une petite région, si l'on peut dire, du Tigray. Et on voit bien là que c'était un échec, parce que il faut plus qu'une armée, si on veut dire, si on veut maintenir des opérations de haut niveau et aller chercher les Tigréens qui étaient dans les montagnes. Donc ils avaient l'avantage du terrain, ils le savaient. Ne pas oublier que les Tigréens ont renversé Mengistu justement grâce à une guérilla de 17 ans. Donc il était à peu près clair qu'à partir du moment où ça commence à durer dans le temps, les Tigréens remporteraient une victoire, si l'on peut dire.
Et tout cela se passe dans un contexte électoral. On attend les résultats des élections législatives.
Ouais. Oui, c'est pour ça que, si vous voulez, que Abiy Ahmed comptait énormément sur les élections et leurs résultats pour reconquérir l'unité du pays, sa cohésion, relancer l'économie et faire de l'Éthiopie ce qu'il avait imaginé, et notamment dans son livre Mes deux mères, qui veut dire synergie en Éthiopie, en Amérique. Hein. Et là, quel que soit le résultat des élections et leurs résultats, elles seront entachées par la défaite, si l'on peut dire, de Abiy Ahmed en région Tigray.
Et une réunion du Conseil de sécurité pourrait se tenir ce vendredi à la demande des États-Unis, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Cette crise peut-elle être réglée de façon pacifique ?
Ça sera difficile. Et je ne pense pas qu'il faille compter sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, tout simplement parce que les Russes et les Chinois bloqueront une demande quelconque de résolution. Même les États africains, les trois États africains, ce qu'on appelle groupe A3, les avaient bloqués il y a à peu près un mois. Donc il ne faut pas compter sur les Nations Unies. Pas plus que l'Union européenne, pas plus que l'Union africaine.
C'était Dr Patrick Ferras, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ambassade d'Israël dans le Golfe a été inaugurée ce mardi par le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, lors d'une visite inédite aux Émirats arabes unis. Bahreïn, une autre monarchie du Golfe, ainsi que le Maroc et le Soudan ont également signé ces derniers mois des accords de normalisation avec l'État hébreu. Ces rapprochements sont considérés comme une trahison par les Palestiniens. Pour analyse, John Lydon a joint Eli Carmon, chercheur au Centre interdisciplinaire de l'Université de Herzliya à Tel Aviv.
Il faut dire que c'est la première visite officielle d'un ministre israélien aux Émirats. Encore que dans le passé, il y a eu des visites secrètes et on a ouvert l'ambassade d'Israël dans les Émirats et aussi un consulat à Dubaï, et aussi il va visiter le bâtiment d'Israël dans le cadre de l'Expo mondiale qui s'ouvrira prochainement dans les Émirats. Donc la présence israélienne maintenant est officielle, est ouverte, comme d'ailleurs a pu passer, parce qu'il y a déjà une ambassade des Émirats en Israël, il y a un jeune ambassadeur très actif. Mais déjà, c'est une visite qui doit remplir un peu le vide dans les derniers mois parce qu'il y a eu des changements de gouvernement. Et probablement, on va aussi signer des accords pour amplifier les échanges économiques et culturels entre les deux pays.
Bahreïn, le Maroc et le Soudan vont normaliser leurs relations avec l'État hébreu. Qu'est-ce qui, selon vous, peut avoir poussé ces pays arabes à conclure de tels accords?
Je crois qu'il y a deux ou trois facteurs. Donc il y a des signes symboliques et pratiques aussi qui, je crois, influencent l'atmosphère de relation entre Israël et le monde arabe. Par exemple, Israël peut aider les pays arabes dans les questions technologiques liées à l'irrigation, à l'agriculture, à la nouvelle technologie digitale. Et en même temps, recevoir des appuis sur le plan commercial de ces pays-là. Le deuxième facteur qui a influencé, ça c'est un facteur pratique, disons. Mais il y a le facteur stratégique. Le facteur stratégique, c'est la peur, si vous voulez, ou la menace iranienne vers tous ces pays arabes sunnites. Dans une période où les États-Unis ont laissé petit à petit le Moyen-Orient.
Les Palestiniens voient ces accords comme une trahison. Est-ce qu'ils ne risquent pas de devenir les gros perdants?
Ils sont les perdants parce qu'ils ne veulent pas, pour le moment du moins, accepter cette normalisation. Parce que le paradigme, avant, c'était que, ou l'axiome, si vous voulez, il n'y aura pas de normalisation tant que Israël ne reconnaît pas un État palestinien indépendant. Et donc, période très longue, les autorités de l'autorité palestinienne, et clairement le Hamas, n'ont pas pensé que cette paradigme va changer.
Elie Camon, chercheur au Centre interdisciplinaire de l'Université de Herzliya, à Tel Aviv. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.